RFI 21h à Paris, 22h, 20h pardon, en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. La terre a tremblé la nuit dernière en Birmanie. Les conséquences se sont faites ressentir aussi en Thaïlande et jusqu'en Chine. Bilan provisoire, plus de 150 morts. Le chef de la junte au pouvoir en Birmanie appelle la communauté internationale à l'aide. À suivre le témoignage d'un habitant de Rangoon. L'armée israélienne bombarde de la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah après 4 mois de trêve. En visite en France, le président libanais Joseph Aoun annonce l'ouverture d'une enquête. Et puis Donald Trump continue sa guerre culturelle. Le président américain estime que plusieurs musées américains sont la proie d'un endoctrinement idéologique. Il a signé un décret lui permettant de reprendre la main sur certains d'entre eux. Au moins 144 morts et 732 blessés en Birmanie. La Thaïlande, elle, est en état d'urgence. Un puissant séisme, 7,7 sur l'échelle de Richter, a frappé les deux pays la nuit dernière vers 6h20, temps universel. L'épicentre situé à 16 km de la ville birmane de Sageng. Ce premier séisme a été suivi par une réplique d'une magnitude de 6,4 quelques minutes plus tard. Marie Normand a joint Kavin, un habitant de Rangoon, qui, à plusieurs centaines de kilomètres au sud, a bien ressenti la secousse.
It takes about 5 minutes in Yangon. We felt.
Ça a duré environ 5 minutes à Rangoon. On a ressenti une forte secousse. On a vu l'eau commencer à déborder des citernes, puis les citernes se renverser. À Rangoon, les dégâts ne sont pas trop graves, mais à Mandalay et dans le nord de la Birmanie, ils sont très importants. Les photos que des proches m'ont envoyées montrent que certaines parties du mur d'enceinte de la ville de Mandalay sont à terre. Le grand pont qui relie Mandalay à Sageng s'est effondré. La capitale administrative, Naypyidaw, a aussi été durement touché. Une partie du Parlement s'est écroulée, tout comme le musée des pierres précieuses et certains bâtiments militaires.
Le bilan de 150 morts en Birmanie et en Thaïlande devrait s'alourdir, déjà parce que des dizaines de personnes sont piégées sous les ruines d'un immeuble à Bangkok, et puis parce que le chef de la junte birmane a lancé un rare appel à l'aide internationale, ce qui laisse augurer d'un nombre de morts au final beaucoup plus important. Il a invité tout pays, toute organisation à envoyer du secours. L'état d'urgence a été déclaré dans les 6 régions de Birmanie les plus affectées. La France, l'Union européenne, l'Inde ont proposé leur aide. Les États-Unis vont aider la Birmanie, affirme de son côté le président américain. En Corée du Nord, par contre, la situation s'améliore. Les pluies de la nuit dernière ont permis d'éteindre une partie des incendies de forêt qui se sont déclarés le week-end dernier. Des incendies qui ont fait, selon un dernier bilan, 28 morts et 37 blessés. 37 000 personnes ont dû quitter leur foyer devant des feux attisés par des vents violents et une sécheresse extrême. Pete Hegseth est aux Philippines dans le cadre d'une tournée dans le Pacifique. À l'heure où la présence de la Chine se fait sentir dans la région, le secrétaire d'État américain a réaffirmé l'engagement indéfectible de Washington au traité de défense qui le lie à Manille. Les Philippines accusent la Chine d'actions hostiles répétées en mer de Chine méridionale. RFI 22h03 à Beyrouth. Après 4 mois de trêve, Israël a bombardé ce vendredi la banlieue sud de la capitale libanaise, un bastion du Hezbollah. Une riposte à un tir de roquette qui a visé son territoire. L'armée israélienne, qui a aussi bombardé le sud du Liban, avait auparavant appelé à évacuer une partie des habitants de Beyrouth. L'armée israélienne qui affirme avoir visé un dépôt de drones. Le président libanais Joseph Aoun, en visite en France ce vendredi, a annoncé l'ouverture d'une enquête. Certains Palestiniens l'appellent la guerre silencieuse. Alors que les regards sont tournés vers Gaza, la situation en Cisjordanie occupée se tend chaque jour un peu plus. À Jenin, par exemple, ce sont 800 bâtiments qui ont été partiellement ou totalement détruits. Et dans les jours à venir, 95 immeubles sont promis à la destruction, selon le journal israélien Haaretz. Depuis janvier, selon les chiffres de l'ONU, 40 000 personnes ont dû quitter leur foyer. Et ces destructions ont lieu aussi au cœur même de Jérusalem-Est, illégalement occupée et annexée par l'État hébreu. Les explications depuis Ramallah d'Amira Swilem.
Réfugiés sur nos propres terres, c'est ainsi que certains Palestiniens se décrivent désormais. À Jérusalem-Est, la crainte des bulldozers est dans tous les esprits. C'est le cas notamment dans le quartier de Silouane, qui jouxte la vieille ville de Jérusalem. Ibrahim El-Hendi est le président de l'Association des architectes palestiniens.
Les Israéliens estiment que Silouane correspond à la cité du roi David et donc ils concentrent leurs attaques sur ce quartier. En 2024, 255 maisons ont été endommagées. Je pense qu'ils profitent de la guerre à Gaza pour attaquer ici. Ils en profitent parce que l'attention médiatique est concentrée sur Gaza.
Certains savent leur jour dans le quartier compter. Nous avons ainsi rencontré une famille palestinienne palestinienne qui a réussi à négocier via ses avocats que sa maison ne soit détruite qu'après la fin du Ramadan. Alors que les Palestiniens obtiennent difficilement des permis de construire, la municipalité de Jérusalem traque les constructions considérées comme illégales.
Il est demandé aux Palestiniens de détruire eux-mêmes leur maison ou alors de payer une amende pour que des machines de la municipalité soient envoyées sur place pour détruire le bâtiment en question. Je crois que la Palestine est le seul endroit au monde où les habitants doivent payer pour qu'on vienne détruire leur maison.
Une guerre silencieuse donc, et psychologique aussi, disent les Palestiniens. Amira Suilem, Ramallah, RFI.
Aux États-Unis, on se souvient que Mahmoud Khalil, une des figures des manifestations pro-palestiniennes de l'université Columbia dans l'État de New York, a été arrêté le 8 mars. Car Donald Trump veut faire taire la contestation étudiante contre la guerre à Gaza, estimant qu'elle relève de l'antisémitisme. Et ce vendredi, le gouvernement américain a insisté devant un tribunal new-yorkais pour que l'affaire Mahmoud Khalil soit instruite dans une juridiction de Louisiane, vue comme favorable à Donald Trump. La décision a été mise en délibéré. Toujours aux États-Unis, Donald Trump continue sa guerre culturelle et donc idéologique. Le président estime que certains musées sont la proie d'un endoctrinement idéologique et pour lutter contre cela, il a signé hier un texte lui permettant de reprendre le contrôle de certains d'entre eux. Ce sont les musées Smithsonian de Washington qui sont particulièrement dans le viseur du président américain, Pierre-Olivier.
Les Américains méritent des musées qui enseignent, pas qui endoctrinent. Dans son décret, Donald Trump ne mâche pas ses mots. Pour lui, les musées Smithsonian ne remplissent plus leur mission première. Ils seraient devenus des outils de propagande, très loin de leur fonction éducative. Véritable institution, les Smithsonian regroupent une vingtaine de musées, dont un d'histoire naturelle et un consacré à la culture afro-américaine, le tout gratuitement financé par des fonds fédéraux. C'est ce financement public qui offre aujourd'hui à Donald Trump un levier pour changer de cap. Si le décret reste assez vague, plusieurs pistes se dessinent, comme par exemple une nouvelle écriture de l'histoire afro-américaine avec moins d'accent mis sur l'esclavage et un récit plus positif. Pour mener à bien cette mission, le vice-président J.D. Vance, membre du conseil des Smithsonian, a été chargé d'identifier et de supprimer toute idéologie inappropriée dans les expositions et les programmes. Concrètement, cela pourrait signifier la révision de panneaux explicatifs ou la refonte de certaines expositions. Après les Smithsonian, d'autres institutions pourraient suivre avec toujours un même objectif, présenter au monde une vision idéalisée de l'Amérique.
Des précisions de Pierre-Olivier. En France, la réclusion criminelle à perpétuité pour Mounir Bouta, pour le meurtre de sa femme. Le 4 mai 2021, ce maçon franco-algérien avait tiré au fusil dans les jambes de la victime avant de la brûler vive. Un acharnement meurtrier destiné à exterminer qui a marqué profondément toute notre société, a déclaré l'avocate générale devant la cour d'assises qui a suivi ses réquisitions. Depuis l'ouverture des débats ce lundi, Mounir Bouta a affirmé qu'il voulait lui faire peur et non la tuer. Il pensait qu'elle lui était infidèle. On va maintenant revenir sur un film sorti ce mercredi en salle en France, « Lire Lolita à Téhéran » de l'Israélien Eran Riklis. C'est l'adaptation du best-seller autobiographique d'Azar Nafizi, professeur de littérature anglo-saxonne dans l'Iran de la Révolution islamique. Elisabeth Le Quéré.
Quoi de plus inoffensif qu'un club de lecture ? Rien, sauf si l'on vit dans l'Iran des années 80 où des livres comme Orgueil et préjugés, Gatsby le magnifique et bien sûr Lolita sont considérés comme sataniques par les autorités. Renvoyé de l'université, Azar décide de réunir secrètement, chaque jeudi après-midi, 7 de ses étudiantes pour lire des classiques de la littérature occidentale censurés par le régime. Alors que les fondamentalistes sont au pouvoir, elles se retrouvent, retirent leur voile et parlent de littérature, bien sûr, mais aussi de leurs amours et de leurs espoirs. Classique, voire un brin convenu, le film capture néanmoins l'atmosphère étouffante de l'époque et les actrices, notamment Golshifteh Farahani, transmettent avec justesse la colère et la peur, tandis que la société devient de plus en plus oppressive. Lire devient alors le moyen, peut-être le seul, de conquérir un espace de liberté et de beauté, voire de devenir un outil de résistance contre un régime qui veut contrôler jusqu'à la pensée.
Elisabeth Le Quéré, RFI 23h40 à Téhéran, c'est la fin de ce journal.